Dès les premières secondes de notre vie jusqu'à notre dernier souffle, il s'insinue en nous, au fond de nos poumons et jusqu'au plus profond de nos cellules. Il nous est indispensable, mais il reste souvent insaisissable. Mais il y a quoi dans l'air que je respire ?
Dans l'air qu'on respire actuellement là dans le studio, c'est une composition de l'air qui est assez stable, près de 78%, c'est de l'azote. Ce qui vient juste après, c'est très important pour nous, c'est l'oxygène. On a un peu plus de 20% d'oxygène. Et puis ensuite, on a après d'autres gaz, un peu moins d'1% d'argon. On a du dioxyde de carbone. Mais là, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est 0,04%. Puis après, vous avez des traces encore de tout plein d'autres gaz. Vous avez aussi de la vapeur d'eau, évidemment. Mais dans ces gaz, on va retrouver de l'ozone, on va retrouver des oxydes d'azote et ainsi de suite.
Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences et dans un épisode qui, l'air de rien, va faire voyager notre nez à la montagne, en ville, à la maison, pour comprendre ce fluide qui passe environ 20 000 fois par jour dans un sens, puis dans l'autre, à travers nos narines. Et c'est Vincent Perret, toxicologue, cofondateur de la société ToxPro, qui va nous faire circuler dans l'atmosphère, cheveux au vent. Mais il est tellement immatériel, cet air qui nous entoure. Alors comment le saisir? Cette atmosphère, elle s'est bien formée à un moment.
La Terre est une masse, une grosse masse, hein, donc il y a de la gravitation. Et tout ce qui a été émis finalement lors de la formation de la Terre, même très très tôt, hein, quand la Terre s'est un petit peu refroidie, qu'il y a eu beaucoup de volcanisme, ça crée une atmosphère par le rejet d'énormément de vapeur d'eau, un petit peu d'azote, mais aussi beaucoup de dioxyde de carbone. Et tout ça, c'est resté finalement attiré, accroché finalement à la Terre par la gravitation. Donc ça, c'est vraiment le tout début finalement de la création d'une atmosphère. D'ailleurs, on peut voir dans le système solaire des planètes telluriques solides, mais qui sont un peu plus petites que la nôtre, comme Mars par exemple. Là, il y a aussi une atmosphère, mais l'atmosphère est beaucoup plus réduite parce que elle est moins retenue. Elle est partie petit à petit, elle a diffusé dans l'espace.
Et la chance que nous avons, nous, comparé à Mars, c'est d'avoir de l'oxygène sur Terre.
Cet oxygène, c'est une belle histoire, cet oxygène. Parce qu'au tout départ, lors de la création de l'atmosphère, donc on remonte à 4 milliards d'années, il n'y a quasiment pas d'oxygène à ce moment-là. Si ce n'est que l'oxygène était plutôt en fait, lié à l'eau. Ce n'était pas de l'oxygène tel qu'on le respire maintenant. Il n'y en avait quasiment pas. Il a vraiment fallu attendre que la vie émerge dans les océans pour que des petites cellules, des cyanobactéries, des algues unicellulaires commencent finalement à, via des mécanismes comme la photosynthèse, capturent le dioxyde de carbone dans l'air, et puis avec la lumière, puissent casser ces molécules-là, et puis comme déchets, finalement, relarguer de l'oxygène. Alors il a fallu pas mal de temps quand même pour que cet oxygène augmente en concentration, parce que comme il n'y avait pas d'oxygène avant, tous les métaux, tous les minéraux qui étaient comme ça en contact avec l'atmosphère ont d'abord capturé cet oxygène pour s'oxyder, pour faire le fer s'est transformé en rouille. Donc il a fallu capturer beaucoup de cet oxygène, mais une fois que tout ça a été saturé, l'oxygène a continué à s'accumuler. Donc là on remonte à 2,5 milliards d'années. Pour finalement atteindre les concentrations qu'on a maintenant d'à peu près 20%. Ça reste quelque chose quand même de relativement stable.
Et oui, l'oxygène que nous respirons est le déchet des algues primitives.
Ah oui, on peut le dire. C'est une très très belle image d'ailleurs. Et c'est aussi une belle leçon. Parce que finalement, ce qu'on constate, plus on avance finalement dans notre compréhension de tous ces équilibres au niveau naturel, c'est que tout est sous forme de cycle. Il n'y a pas vraiment finalement de déchets ou de déchets ultimes. Ça, c'est vraiment une notion, on va dire, quasiment humaine. Créer finalement des choses à la fin qui sont tellement dangereuses, qui sont tellement inutiles que ça devient un déchet ultime. La nature ne fonctionne pas du tout comme ça. Ça, c'est les grands enseignements. Donc finalement, le déchet d'entité devient finalement la source de vie en fait, de l'autre. Donc tout est sous forme de cycle. Tout est régulé aussi.
Ce qui est sûr, c'est qu'en Suisse, notre oxygène à nous, il est plus propre que celui des autres. Enfin, surtout notre air. Il est plus propre que celui des autres, n'est-ce pas ?
En tout cas, il est perçu comme tel parce qu'effectivement, c'est un argument marketing. Il y a certaines entreprises qui essayent de mettre de l'air suisse en canette, en sous-pression, et puis ils le vendent à l'étranger. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'assez curieux quand on est suisse. Alors oui, on a de la chance en Suisse parce qu'en comparaison internationale, on a très peu de très grands centres urbains. Évidemment, on a aussi des industries, donc on a quand même l'impact de notre activité sur la qualité de notre air. Mais globalement, si on se compare finalement aux autres, on est quand même assez bien loti. D'autant plus qu'on a aussi facilement la possibilité de prendre de l'altitude, d'atteindre finalement des environnements qui sont naturellement bien ventilés, dans lesquels il y a moins finalement d'accumulation possible de pollution.
Et c'est donc... dans les montagnes suisses que l'air est le plus pur.
On est loin des sources déjà d'émissions. C'est de l'air aussi qui est bien renouvelé parce que le vent peut passer vraiment sans encombre. Quand on compare ça par exemple dans une ville, le vent pour lui c'est difficile de passer finalement entre les rues. Donc du coup on va y avoir une accumulation. Ce qui est intéressant de voir typiquement dans les montagnes, on a des épisodes de pollution souvent majeurs, mais dans les vallées. Parce que justement, dans ces vallées, il y a des sources d'émissions, des industries, beaucoup de transports. Et puis, suivant comment est configurée la vallée par rapport au vent dominant, il y a très peu de renouvellement d'air. On a aussi des phénomènes d'inversion thermique qui font comme une sorte de couvercle au-dessus de cette pollution. Et puis, cette pollution va s'accumuler au niveau du sol. Donc, il n'y a pas tout qui est rose, ça c'est sûr. Mais on va dire localisé. On n'a pas un problème de pollution globale sur l'ensemble du territoire.
L'air circule dans nos montagnes suisses et il est plus pur. Mais pourtant, quand je monte à 3000 mètres d'altitude, je suffoque un peu, moi.
Oui, c'est juste, mais c'est pas dû à la pollution. C'est vraiment là une question finalement de quantité d'oxygène. Plus on va s'éloigner finalement de la surface de la Terre, moins il y a de la rétention finalement de cette atmosphère par la gravitation. Donc du coup, l'air y est moins dense. Avec cet air moins dense, finalement, on a moins de molécules d'oxygène à disposition. Donc cet effet finalement d'air raréfié est dû à la question de la pression atmosphérique.
Cela dit, ce n'est pas facile de rester en montagne tout le temps. Et il faut bien revenir en ville de temps en temps et respirer un air un peu moins pur.
Alors tout va dépendre des villes, mais disons qu'effectivement, ce qu'on a dans l'air des villes, c'est la somme de l'air, on va dire, normal, plus l'adjonction finalement de tout ce qu'on a émis et ce qui pourrait finalement s'accumuler. Donc en ville, on a pas mal de sources finalement d'émissions, qu'on appelle ça de la pollution, parce que ça nous est nuisible, mais on a évidemment tous les gaz émis par la combustion des hydrocarbures, c'est beaucoup les transports, c'est beaucoup le chauffage, principalement ça, on a aussi pas mal de particules qui sont émises. On a aussi des gaz qui sont aussi émis par la combustion, mais notamment les oxydes d'azote, qui sont aussi très très problématiques en termes de santé publique notamment, parce que là on est sur des gaz qui sont irritants. On sait que l'exposition aussi aux particules fines, dont on parle beaucoup, sont clairement associées, ça on le sait depuis pas mal de temps, aux maladies cardiovasculaires, même plus, l'impact est même plus fort de ce côté-là que les impacts pulmonaires, que les impacts type cancer du poumon, que des problématiques d'asthme, que des problématiques finalement d'obstruction pulmonaire. Les risques cardiovasculaires dus à la pollution, en fait, sont encore plus importants.
On va se réfugier en forêt alors?
Quand vous avez des épisodes finalement d'ozone en été, vous avez souvent en fait des concentrations plus fortes d'ozone en fait en périphérie des villes, notamment au niveau des forêts ou dans la campagne, que dans la ville elle-même. Là c'est un petit peu un paradoxe, c'est que la pollution participe à la création de cet ozone, mais participe à sa destruction aussi.
Mais l'ozone, c'est bien, non? Ça protège du soleil.
Cet ozone, même s'il est très bénéfique en fait en altitude, ça demeure en fait une molécule très très réactive, et si elle est émise au niveau du sol où il y a les gens, on respire, ça c'est pas bon pour nous parce que c'est une molécule très agressive, très irritante pour les voies respiratoires.
Bon, on va peut-être rester à la maison.
Non, alors ça c'est vraiment un point très important à souligner, c'est que l'air qu'on respire à l'intérieur finalement, en tout cas si on veut évaluer sa qualité, il faut vraiment concevoir que cet air, à la base, provient de l'extérieur, donc on a les polluants extérieurs, d'une manière ou d'une autre, qui ont diffusé à l'intérieur. Mais en plus, on va rajouter tous les polluants émis à l'intérieur de notre habitation.
Oui, mais moi, je ne fais pas tourner un moteur diesel à la maison.
les polluants intérieurs, c'est vraiment très très vaste. Finalement, tout ce qui est lié à notre activité. Si je vais manipuler des produits, par exemple, ces produits peuvent avoir des vapeurs. Si je vais commencer à nettoyer des choses, j'ai mes détergents. Je vais émettre dans mon environnement intérieur. Et puis l'air à l'intérieur d'une maison, il est beaucoup moins bien renouvelé. Ça, c'est pour les produits. Si je fume à l'intérieur, évidemment, je vais aussi augmenter massivement, là, pour le coup, la pollution intérieure. Mais il y a encore tout plein d'autres choses.
Ok, je vais me détendre et faire un bon petit plat.
Suivant si on est bon cuisinier ou pas, ça revient aussi à fumer, parce qu'on peut brûler aussi ces plats. Mais indépendamment de ça, si on fait de la cuisine au gaz, par exemple, la combustion du gaz émet beaucoup de nanoparticules. Ça émet aussi beaucoup d'eau. Donc beaucoup d'humidité. Et puis alors l'humidité, on n'en a pas trop peur, mais à l'intérieur d'une habitation, c'est un vrai problème. Parce que cette humidité, elle va rester coincée. Donc il y a la cuisine, mais si je prends des douches, je fais ma lessive. Donc il y a tout plein de sources, en fait, d'humidité. Et cette humidité peut très bien, finalement, s'accumuler à l'intérieur et promouvoir, finalement, la prolifération de moisissures. Les moisissures ont besoin de cette humidité. Elles ont besoin de nourriture, mais la nourriture, elles vont de toute façon en trouver, parce qu'il y a tout plein de choses à manger, finalement. Plein de choses organiques qu'on peut avoir, des détritus, un peu de la poussière et tout ça. Donc ça, c'est pas un problème. Puis il faut de l'eau. Alors si on amène de l'eau, en fait, dans le système, si on reste finalement dans une sorte de... comme une sorte de sauna, finalement, là, on peut avoir une prolifération de moisissures. Et ces moisissures-là, ce sont des êtres vivants. Elles émettent aussi de l'air polluant. C'est ce qui va participer à l'odeur de moisi, en fait. Mais aussi leurs propres membranes, les spores qu'ils vont pouvoir émettre aussi pour pouvoir se multiplier, proliférer, sont des substances qui, pour nous, si on les respire, sont allergisantes. Ça peut poser des problèmes pour des personnes sensibles, des personnes immunodéprimées, pour des enfants, pour des personnes âgées.
Pourtant, on nous dit d'humidifier nos intérieurs l'hiver. Alors, il faudrait savoir.
Il faut toujours trouver un peu la balance. Quand on dit qu'il faut humidifier, c'est sûr, en hiver, c'est qu'effectivement, on a de l'air qui vient de dehors parce qu'il fait froid, donc l'air s'est débarrassé un peu de son eau par condensation. Et cet air est réchauffé. Donc du coup, on augmente la capacité de cet air à recevoir finalement de l'humidité qu'elle a pas. Donc du coup, on se retrouve avec de l'air sec. Et puis cet air, pour se mettre finalement en équilibre, va prendre finalement l'humidité où elle peut. C'est nous. Nous sommes en fait gorgés d'eau. Et ça, c'est pas très très agréable parce que ça nous dessèche. En plus, d'un point de vue confort, ça renforce les possibilités de faire des décharges électrostatiques et puis ce type de choses. Donc du coup, on recommande en fait d'augmenter l'humidité dans les habitations. Mais attention, quand on dit ça, c'est-à-dire qu'il faut pas faire non plus la forêt vierge. Donc on dit qu'il faudrait idéalement se retrouver plutôt aux alentours des 50% d'humidité. Si on ne fait pas trop attention dans une habitation, on est facilement à 80%. Alors, 80%, surtout en hiver, vous avez des endroits qui peuvent être froids au niveau des murs, vous aurez là de la condensation de l'eau. Puis c'est là où vont proliférer normalement les moisissures.
Bon. Beaucoup de dangers nous guettent à l'intérieur de nos habitations. Il ne manquerait plus que nos logements soient radioactifs.
Le radon est un vrai, vrai souci en fait, de qualité de l'air intérieur. C'est un gaz naturel, mais radioactif. Et il est issu, naturellement, de la dégradation de l'uranium, et notamment les roches type granit. Du granit, on en a pas mal. Finalement, ce radon, quand il est émis par la dégradation de l'uranium, c'est dans les sols que ça se passe. On a construit une maison dessus. Ce gaz, par infiltration au niveau des sols, il peut venir pénétrer dans la maison et s'accumuler dans les parties basses de la maison, dans la cave et ainsi de suite. Et puis si c'est un lieu d'habitation, si on a aménagé finalement nos sous-sols, là on va être exposé à ce gaz radioactif. Alors c'est pas anodin, parce qu'on considère que c'est la deuxième cause de cancer pulmonaire en Suisse, juste après la cigarette. À peu près 10% des cas de cancer pulmonaire seraient imputables à l'exposition des populations au radon.
L'air à l'intérieur de chez moi laisse à désirer, chez vous aussi d'ailleurs. Et si j'adoptais des plantes dépolluantes ? On les aime bien, nous, les déchets des plantes, puisqu'on les respire.
Ah, les plantes dépolluantes, ouais, c'est toujours intéressant.
Donc, ça marche pas ?
C'est vraiment un mythe. Dans certaines situations, on se retrouve dans certaines habitations, dans des forêts vierges quasiment, parce que les gens disent « Ouh là là, moi je veux vraiment éviter d'avoir trop de pollution, je vais me charger en plantes. » Et on se retrouve dans des environnements qui sont chargés en fait en moisissures. Je ne suis pas en train de dire que les plantes n'ont pas de métabolisme, on le sait, c'est le cas. Certaines peuvent aussi capter certains polluants, mais disons que ça se fait finalement à des vitesses qui ne sont pas réellement exploitables en termes d'efficacité.
Mais alors elle vient d'où cette idée?
Cette histoire, ça nous vient finalement de la NASA, où dans les années 60, où ils se posaient la question, bon Dieu, ben on va mettre des gens dans des boîtes de conserve en fait en orbite, il faut qu'on regarde la qualité de l'air, est-ce qu'on pourrait pas mettre des plantes pour dépolluer? Ils ont fait beaucoup d'études là-dessus. Ce qui est intéressant, si on regarde ces études-là, ben oui, elles ont été faites, c'est vrai. Mais leur conclusion, c'est que ça marche pas.
On peut peut-être se tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Encens, huiles essentielles, yoga.
La chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un air propre, un air pur, en fait, c'est un air simple. C'est un air, en fait, qui contient uniquement ce dont on a besoin dedans. Un air propre, c'est pas un air qui sent bon. Donc, si ça sent bon, c'est qu'on a ajouté, des choses.
Donc, il ne me reste plus que la fenêtre.
La seule façon de pouvoir assurer un air sain, c'est contrôler les sources, donc c'est éviter de faire n'importe quoi hein, dans son environnement, mais surtout, c'est de renouveler l'air. Et là, on parle d'ouvrir les fenêtres, et puis ça coûte. Ça coûte du temps, en fait. Ça coûte de l'organisation, mais ça coûte rien d'autre.
Ok, je laisse ouvert toute la journée, mais il commence à faire froid, là.
Alors, c'est ouvrir les fenêtres régulièrement. C'est pas ouvrir les fenêtres, j'ouvre en fait une fois le matin, pendant un quart d'heure, pendant 20 minutes. Bon, déjà ça, c'est déjà pas mal, mais si c'est tout ce qu'on fait pendant la journée, on risque quand même d'avoir de l'accumulation suivant finalement comment on vit dedans. Donc c'est ouvrir régulièrement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait la cuisine, ça peut être une bonne idée en fait d'ouvrir. On a fait des mesures, hein, ce qui se passe dans un environnement intérieur, dans un salon. Une fois qu'on a allumé un bâton d'encens, on se retrouve dans des conditions de pollution qui ne sont pas très très éloignées de celles qu'on a, par exemple, imaginons, en bas d'un parking très très mal ventilé avec des véhicules diesel qui sont dedans. On parle de ça, on parle vraiment de ces niveaux de concentration. Donc on peut avoir des niveaux de concentration en pollution très très importants à l'intérieur, bien plus importants que ce qu'on a à l'extérieur. Donc l'air intérieur beaucoup plus pollué qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, on y passe énormément de temps. Donc il faut pouvoir gérer ça.
Gérer cela, soit. En Suisse, c'est facile. Mais dans certaines villes où l'air est irrespirable, c'est plus compliqué. Dans le monde, il y a près de 2 millions de personnes qui se chauffent au bois ou à d'autres combustibles. Autant de gens dont la santé est mise en danger à chaque respiration. Notre atmosphère a évolué depuis le début de la formation de la planète. Et elle continue d'évoluer.
Depuis la révolution industrielle, au 19e siècle, à partir de là, on a commencé vraiment à avoir des pollutions majeures, notamment au niveau urbain, aussi à cause du chauffage, l'utilisation notamment du charbon. Le fait de brûler justement des combustibles solides émet énormément de particules. Et vraiment, à partir du 19e siècle, on pouvait dire qu'on avait de l'air visuellement sale, hein, une sorte de smog permanent. On peut dire qu'objectivement, l'air qu'on respire maintenant est quand même beaucoup plus propre en fait que l'air qu'on pouvait respirer au 19e siècle en fait, dans les centres urbains. Mais la nature de la pollution a un peu changé. Avant la révolution industrielle, la pollution dans les villes était aussi intense, mais c'était beaucoup les odeurs. Parce qu'on n'avait pas de système sanitaire, pas de système de gestion des déchets, tout était en putréfaction finalement un peu partout, donc il faut bien imaginer les odeurs que ça pouvait amener. On n'a plus trop ce type de problème. Maintenant, les problèmes que l'on a, ce sont justement ces gaz à effet de serre.
Dont le dioxyde de carbone, le CO2 notamment. Et ça se mesure, je veux dire, sur une échelle humaine et au quotidien.
Dans ma profession, on aime bien utiliser la mesure du dioxyde de carbone pour évaluer la qualité du renouvellement de l'air dans une pièce. Parce qu'on émet du dioxyde de carbone, donc on regarde l'accumulation en fonction du nombre de personnes qui sont là. Mais on doit tenir compte du fait que de toute façon, naturellement, il y a du dioxyde de carbone dans l'air pour ne pas fausser nos calculs. Donc on va retrancher cette partie-là, en fait, qui est naturellement présente. Et quand j'ai commencé à faire ces mesures, il y a à peu près une vingtaine d'années, on retranchait à peu près 320-350 ppm. Il y a 20 ans, dedans, quand il n'y avait personne. Et maintenant, si je veux faire le même travail, c'est pas 320 que je dois retirer, c'est plus de 400. Donc déjà, rien qu'à mon échelle, en 20 ans, je constate, au travers de mes mesures, cet accroissement finalement de dioxyde de carbone. Actuellement, on est quasiment à une augmentation de 2 ppm par année.
Mais quant à savoir ce qui va se passer ensuite...
Ça va beaucoup dépendre de nous. Hein. C'est que quand on dit oui, L'atmosphère a beaucoup bougé en termes de concentration. C'est le cas avant l'homme. Quand on regarde vraiment l'histoire à l'échelle géologique, donc on parle de mécanismes en centaines de millions d'années, pour finalement que l'atmosphère devienne respirable et puis qu'elle soit propice à l'émergence finalement d'une vie organisée basée sur le carbone, avec la photosynthèse. Là, il a fallu 2,5 milliards d'années, quasiment 2 milliards d'années pour arriver à ça. Nous, on arrive maintenant finalement avec nos activités, notre présence, à dérégler ce système-là, mais sur l'échelle en fait de dizaines d'années. Donc, on est en train finalement d'asséner dans le système régulé, autorégulé naturel, des coûts à l'intérieur qui sont d'une violence et d'une proportion et d'une rapidité en fait jamais vues. Et surtout, ce qu'on est en train de réaliser, on ne va pas jouer le catastrophisme ici, mais disons que ce sont des mécanismes relativement lents. Est-ce qu'on constate maintenant cette dérive? Si on arrive à mesurer quelque part cette accroissance de dioxyde de carbone, malgré le fait que l'atmosphère, elle est immense, eh ben, on a émis tellement en fait, de carbone dedans qu'on arrive à le mesurer maintenant dilué sur l'entier de la planète. Donc, il faut bien réaliser que même si on arrête toute émission maintenant, il va falloir pas mal de temps pour que ça se restabilise, et peut-être que ça ne va pas se restabiliser en fait, au même niveau qu'avant. Mmh. Donc actuellement, on considère, d'un point de vue scientifique, que le retour à la normale, à l'état d'avant, si vous voulez, c'est hypothétique, on n'arrivera pas. On est maintenant, par définition, dans une dérive. Puis on ne sait pas où ça va aller, il va falloir finalement essayer de limiter au fur et à mesure les dégâts. Mais une chose est sûre, c'est que le dioxyde de carbone va continuer à augmenter. Ça, c'est une chose. Les températures, globalement, vont continuer à augmenter. Et certainement, il y aura un autre équilibre. Peut-être que ce nouvel équilibre ne va pas nous convenir, mais on fait partie de ces cycles.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Où est la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Il est temps pour Microsciences de voler vers d'autres horizons. Si cet épisode vous inspire, partagez-le sur le réseau social de votre choix. Si c'est une question que vous avez envie de nous souffler, écrivez-nous sur microsciences@rts.ch. Microsciences en un seul mot et au pluriel. Et puis, aux quatre vents, il y a Camille Dupont-Lahitte, brise d'été et coproductrice. Mathieu Ramsauer, réalisateur d'Air Pur. Jérôme Nussbaum, qui décoiffe la bise avec son habillage musical. Andrea Glanville, notre éthéré attaché de production. Et moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique au corps solide et à l'esprit plein de bourrasque. À bientôt.